Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour, Au ras des rues sur RKS 97 FM, l'émission hebdomadaire sur les quartiers sud de Grenoble. Bonjour.
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 Avec dans l'ordre Morgane, Ben.
Bonjour.
Antoine, et aujourd'hui on reçoit Pauline qui nous parlera de l'Alliance citoyenne. Voilà, donc on commence par Ben. Patricio à la technique, on l'oublie toujours.
Et on précise pour les auditeurs qui n'ont pas l'image que Patricio s'est coupé la barbe.
Alors à toi Ben pour l'agenda de...
Alors à l'agenda du Crieur de la Villeneuve, le journal participatif du quartier de la Villeneuve. On vous propose jeudi 19 novembre à midi à l'Arbre Fruité, le restaurant solidaire du quartier de la Villeneuve.
Quelle adresse ?
80 Galerie de l'Arlequin. Merci.
Merci.
Un repas à l'Arbre Fruité, c'est dans le cadre du développement durable. Vous pouvez venir et partager un repas, en fait, aider à la préparation du repas à l'Arbre Fruité. Le menu est à 13 euros, si ça vous dit. Donc c'est jeudi 19 novembre à midi. Et à la même date, jeudi 19 novembre à midi, on reste dans l'alimentaire avec l'association Arc-en-Ciel qui organise un repas partagé. Donc l'association Arc-en-Ciel, ils sont situés au 40 Place des Géants, c'est l'association de coopération France-Maghreb. Et ils proposent un repas partagé, crêpes à Kogo. Donc vous pouvez venir... préparez vos crêpes, dégustez vos crêpes dans la foulée. C'est 6 euros pour les adhérents et 7 euros pour les non-adhérents. Non-adhérents, pardon. Oui.
On va faire du gras pour l'hiver.
C'est ça. Il faut faire des réserves. Puisqu'on parlait du mois du développement durable, donc le 20 novembre, vendredi 20 novembre, c'est la fin du mois du développement durable. Et dans ce cadre, deux films sont proposés en projection à l'espace 600, donc c'est au patio. À partir de 18h, les deux films donc, sont un film pour enfants qui s'appelle La prophétie des grenouilles. C'est un film d'animation réalisé par Jacques-Rémy Girard. Et en deuxième partie, le film Anaïs s'en va en guerre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il est tourné il a pas mal circulé il y a un an à peu près.
Ça se passe en Bretagne ?
C'est ça, ça se passe en Bretagne. C'est l'histoire d'une jeune agricultrice qui s'installe, qui est encore en école, ou qui vient de finir l'école, je ne me souviens plus. Et qui s'installe et qui galère un peu
dans un monde professionnel un peu machiste.
Oui, puis elle est un peu toute seule, donc c'est assez...
Ouais.
Assez
elle commence dans une caravane.
C'est ça. Tu te souviens bien du film. Donc c'est vendredi 20 novembre à l'espace 600, c'est gratuit, et c'est à partir de 18h. Et si vous n'aimez pas le cinéma, et ben vous pourrez aller voir le 20 novembre, donc le vendredi, Saïd Bouamama qui donne une conférence toujours à la Villeneuve. C'est à la salle polyvalente des Baladins, donc 85 Galerie des Baladins. Donc on rappelle, Saïd Bouamama, c'est un militant associatif. Il est connu pour être un
sociologue.
Sociologue aussi.
Oui.
Il est connu pour être un des fondateurs du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, FUIQP, c'est pas facile à dire. C'est un militant associatif de longue date. Il a participé à la marche contre le racisme, pour la dignité, contre le racisme. Pour l'égalité contre le racisme de 1983. Donc c'est vendredi 20 novembre à partir de 18h à la salle polyvalente des Baladins, 85 Galerie des Baladins, et venez nombreux. Et enfin pour finir, le 24 novembre, c'est un mardi, le 24 novembre à 18h aura lieu à la maison des habitants des Baladins au 31 Place des Géants, une réunion sur la création d'une université populaire à la Villeneuve.
On a déjà évoqué cette création, oui.
Voilà, donc le but c'est de créer un peu un rassemblement d'associations pour que le savoir se soit partagé entre tous les habitants. Voilà, c'est un peu le but. Tu veux ajouter quelque chose, Morgane ?
Oui, c'est pour que le savoir soit accessible à tous, de manière gratuite et aussi de valoriser les savoirs qui sont... pas forcément institutionnalisés, pas forcément que les savoirs universitaires, mais aussi les savoirs des habitants et voilà.
Partage les savoirs.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est tout pour l'agenda. Et dans l'actualité aussi du crieur, on va parler un peu des tables de quartier.
Oui,
on en a déjà parlé
les
ici.
Les tables de quartier, oui.
Beaucoup. Et vendredi 13 novembre, a eu lieu le tirage au sort de la table de quartier Villeneuve Village Olympique. Donc on rappelle que la table de quartier, c'est une assemblée d'habitants et d'acteurs locaux qui est censée être l'interlocuteur de tous les pouvoirs publics et être les représentants des quartiers populaires, en fait, dans toutes les questions de rénovation urbaine notamment. Donc il y aura une table de quartier par quartier prioritaire. Et donc sur celle de Villeneuve Village Olympique, donc il y a eu un tirage au sort parce qu'il y avait plus de volontaires que de places. Donc il y a eu 22 habitants volontaires et donc il devait y en avoir que 5, donc il y a eu un tirage au sort et il y avait 14 acteurs locaux volontaires et il devait y en avoir 8, donc il y a eu tirage au sort. Donc je peux vous donner la liste des 8 acteurs locaux. Ce sont donc Star Fitness, qui est une salle de sport avenue Marie-Renoir, l'association Arc-en-Ciel, on en parlait tout à l'heure, l'Union de quartier Village Olympique Vigny-Musset, un kiné de Constantine, l'Union de quartier Villeneuve-2, donc c'est l'Union de quartier pour les géants et les baladins, l'association des habitants de la place des géants, la CSF, Confédération syndicale des familles, et le café, le Melting Pot, qui est aussi situé sur la place des géants. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci Benjamin, c'est tout pour aujourd'hui. On commence avec une première musique. Alors, comme on l'avait dit la semaine dernière, je crois, on se l'était dit entre nous, la musique aujourd'hui sera libanaise. C'est Elie qui était là la semaine dernière, il nous a parlé du Crous au Village Olympique, c'est un étudiant en architecture. Donc il nous propose aujourd'hui des musiques de son pays et la première musique va être une musique de Iba Tawaji qui a été, elle a chanté dans l'émission The Voice en France, elle a été paraît-il demi-finaliste de la France et elle chante quelque chose qui tourne autour du printemps arabe, de la guerre, de tout ce qui se passe autour de soi. On l'écoute ?
Oh, قلبي المشغول عن اي ربيع تغني عن اي ربيع تقول الناس اللي عم تسقط اني قبر يومي من المسؤول حلمنا بربيع الدهر عطر وانتشر عن الناس كل عالربيع محير زهر دم ولاد وناس بديت بعربية خضرة والعز ثورة بالميدان عملوها ثورتنا حمرة تقتل باسم الأديان عملوها ثورتنا حمرة تقتل باسم الأديان ترجع لورا خوفي لعد ثورة تأخر وتصيرنا مسخرة بدي ربيع يكون أخضر تيبشر بصيف جديد عملونا الربيع الأحمر رشونا سلاح وحديد من خلف الربيع تطلع شمس الصيف المضويد بعد الصيف الخريف بيسمع رعد الغيم الشتوي حتى بكرة الشتي يطلع يغسل عرامينا الحمرا دورة الحياة بترجع بالصرخة للتاريخ
طول الربيع العربي زهر خريف الفوضى البر خلى الشعب العربي ما يحرر ثورة بيضاء
خوفي على الشعب العربي غيره يحرر ويبقى جاهل مثل الصبي يحكم بصوت الروضة الناس اللي عم تسقط هني قبر يومي بالمسؤول حلمنا بربيع الدهر عطر وينتشر عن الناس طلع الربيع محير زهر دم ولاد وناس بديت بعربية خضرا ولعت ثورة بالميدان عملوها ثورتنا حمرا تقتل باسم الأديان عملوها
Oui, donc c'était Iba Tawaji, une musique libanaise. Les musiques aujourd'hui ont été choisies par Eli, notre ami libanais. Donc musique libanaise pour cette émission. Émission, donc je rappelle qu'on est au Ras des Rues, l'émission qui prend de la hauteur, sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Donc il nous reste plusieurs choses à voir aujourd'hui. Donc on avait parlé de l'Alliance citoyenne et ensuite on aura Morgane et Antoine qui nous parleront de la gentrification des quartiers populaires ou l'embourgeoisement des quartiers populaires. Ils nous expliqueront ça tout à l'heure, c'est dans l'actualité. Voilà, bonjour Pauline. Donc,
bonjour.
Tu représentes l'Alliance citoyenne. On en entend parler depuis quelque temps sur le village olympique. L'association a fait beaucoup d'adhérents, je crois, a fait des adhérents en tout cas. Elle se propose d'écouter, d'essayer que les habitants s'organisent pour régler des problèmes de locataires. Tu me diras si je me trompe. Hein. Et il y a déjà eu deux réunions au village olympique avec une grande diversité, je crois, des participants. Oui.
Une seule.
Une seule. Je crois qu'il y en aura deux, oui.
Ah oui, d'accord.
Si, il y en a eu deux. L'autre, c'était hier. Et voilà. À l'abbaye, au quartier de l'abbaye, au quartier voisin de l'abbaye. Il y a aussi le lundi, il y a une rencontre à la SDH, la Société Dauphinoise d'Habitat, pour. Il y avait des revendications des locataires de l'abbaye à propos notamment des problèmes de cafards et autres nuisances qu'il y a dans certaines montées. Et donc il y avait aussi un nombre assez important d'habitants avec l'appui de quelques habitantes du village olympique. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait l'Alliance citoyenne que tu représentes ? On aurait aimé qu'il y ait des habitants, mais bon. Oui. Ils sont encore un peu timides pour venir prendre la parole, ou nous, on ne sait pas encore faire pour les inviter. Voilà. Oui,
la prochaine fois, ce sera.
Tu n'étais pas à la réunion Marie-France, justement ?
Oui, mais je suis.
Tu es habitante.
Oui, je suis habitante. Oui, je suis habitante. Voilà. Donc.
Alors, moi je suis salariée de l'Alliance citoyenne.
Oui.
Du coup, si je vous présente en quelques mots l'Alliance citoyenne, c'est aujourd'hui c'est près de 350 membres.
Sur l'agglomération de Grenoble.
Sur différents quartiers de l'agglomération. Et notamment beaucoup à l'abbaye, sur le quartier de l'abbaye et sur le quartier Tesserre. Le début de l'année 2015, des gens ont commencé à s'organiser par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Depuis un mois, c'est au village olympique que des gens aussi commencent à s'organiser. Aujourd'hui, il y a entre 35 et 40 membres, parce que tous les jours, chaque membre maintenant commence à discuter avec ses voisins et on est de plus en plus nombreux, donc
c'est important plaisir.
C'est très important.
Voilà. En peu de temps.
Voilà.
Très efficace.
Exactement. Et les deux dernières réunions, donc on a discuté un peu de comment on allait organiser. On s'est tous mis d'accord sur le fait d'organiser une grande assemblée dans le quartier début décembre. Pour choisir ensemble quels sont les problèmes qu'on voudrait essayer de régler tous ensemble.
Donc ce sont les problèmes des locataires essentiellement, dans les appartements.
Ça peut concerner vraiment tout. Effectivement, dans les dernières réunions, on avait discuté beaucoup de logements. Ça peut aussi concerner des choses par rapport au travail, par rapport au... Par exemple, j'ai entendu beaucoup de mamans qui avaient des gros soucis pour trouver des stages pour les enfants, pour leurs enfants qui étaient en formation, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi éventuellement une action si elle est décidée par les habitants, par le collectif. Donc ça peut concerner le quartier, les jeux pour enfants, le logement, le travail.
Voilà. Si j'ai bien compris, l'association met un peu à disposition des habitants qui composent cette association, des moyens techniques un petit peu pour intervenir, pour...
C'est à la fois du temps salarié pour aller rencontrer le maximum de personnes, parce que ça part du principe que notre force, que l'union c'est la force.
Oui.
Et que si on veut être assez fort pour se faire entendre par les institutions concernées qu'on va choisir de solliciter, il faut qu'on soit nombreux. Et du coup, le temps des salariés comme moi est mis à disposition pour aller chercher des nouvelles personnes, pour faire le lien entre les différents quartiers, comme ça a été fait là justement, où des habitants du village olympique sont allés soutenir des habitants qui étaient aussi locataires de la SDH pour les soutenir
pour faire nombre aussi,
oui. Voilà. Ouais. Un soutien de temps de mobilisation.
Donc le financement, ça vient des cotisations, de subventions, de...
Voilà,
quelle origine ?
Tous les membres payent une adhésion de 5 euros par mois. Ça représente... Enfin, c'est le souci qui a été choisi dès le début de l'Alliance d'être indépendant financièrement de toutes les institutions locales. Ensuite, il y a eu, de toute façon, pour aider l'Alliance, au début et encore aujourd'hui, des fondations comme la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Un Monde Par Tous, la Fondation Non-Violence 21, Et la région aussi qui a aidé.
En général, cette association n'est pas née seulement à Grenoble. Elle a d'autres origines, elle a une histoire.
Alors,
ou
voilà,
quoi
voilà la base de
l'inspiration.
L'inspiration, voilà.
Voilà.
L'inspiration des premiers fondateurs de l'Alliance citoyenne à Grenoble était le community organizing, qui sont des méthodes qui sont beaucoup utilisées aux États-Unis, en Angleterre, et qui dans les années 30 ont commencé beaucoup avec un monsieur qui s'appelait Saul Alinsky, et qui a été aussi une inspiration pour beaucoup de mouvements sociaux
dans les quartiers populaires,
dans les quartiers à l'époque c'était à Chicago lui qu'il avait travaillé, où il est arrivé dans certains quartiers et il s'est dit en fait les gens, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup
de délinquance,
etc. Est-ce que je viens là pour pacifier tout ça, ou pour, parce qu'il était sociologue de l'école de Chicago, etc. Mais il se dit, est-ce que je viens là pour pacifier tout ça, ou est-ce qu'en fait les gens, ils n'ont pas des raisons aussi, c'est pas pour rien qu'on en arrive là. C'est aussi parce qu'il y a des problèmes sociaux, c'est parce qu'il y a des propriétaires véreux, c'est parce qu'il y a
des violences institutionnelles.
Voilà. Et du coup, organisons-nous pour essayer de changer ces problèmes et allons voir les institutions pour demander des comptes et ensuite on verra ce qui se passera, quoi. Voilà. Donc ici c'est ce parti qui a été choisi de se dire
ici c'est à Grenoble.
À Grenoble, oui. Voilà, depuis 5 ans l'idée c'est de dire il y a des institutions quelles qu'elles soient, et s'il y a des problèmes qui dépendent en partie ou totalement d'elles, on va les voir pour aller leur demander des comptes.
Voilà, c'est pas un parti, c'est pas...
Non.
C'est une association.
Voilà, c'est l'indépendance politique et financière et la base
pour le fonctionnement
de cette organisation. Voilà.
Mmh. D'accord.
Il y a des gens de plein de partis dans notre... Enfin, c'est pas... On arrive comme on est dans l'Alliance citoyenne et on n'est pas là pour dire aux gens quoi penser.
D'ailleurs, il y a une grande diversité parmi les gens qui sont,
ouais,
en tout cas pour le groupe du village olympique.
Oui, ça faisait très plaisir de toute génération, de toutes origines. Et...
Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un avait des questions.
Si, j'ai entendu parler de l'Alliance citoyenne au quartier Mistral.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur...
Non.
Bon.
Non, parce que on s'était dit ce serait intéressant d'aller voir. Enfin, il y avait des gens qui étaient aussi motivés un peu à Mistral. Et en fait, il y a une association qui était née justement au moment où l'Alliance se créait, qui fait aujourd'hui du super travail de représentation.
Avec un peu les mêmes buts.
Avec un peu les mêmes buts. Donc, c'est pas d'actualité d'aller à Mistral.
Est-ce qu'il y a une synergie avec d'autres associations ici ou dans la politique de l'association, on va dire?
L'idée c'est quand même ça a été un moment effectivement de d'allier plusieurs associations aussi. C'était au début c'était aussi une plateforme de lutte commune entre diverses associations. Voilà, du coup, il y a toujours des associations qui sont très proches, dans leur manière de faire.
Et
Morgane,
tu dis que ça fait 5 ans que donc vous êtes sur Grenoble et que vous faites des actions. Est-ce que tu as des victoires ou des choses, des exemples de choses qui ont été obtenues à Grenoble?
Oui. Alors, il y en a eu plusieurs, ouais. Il y a eu des choses qui sont moins bien passées parfois aussi, mais finalement, il y a eu pas mal de victoires dans ce qui s'est fait.
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus emblématique? Non.
Eh bien, si, là, par exemple, pour la dernière à Tesserre, c'était il y a quelques semaines où on a eu la réponse. Les habitants, Actis avait.
Actis, donc, qui est un bailleur social sur le quartier,
à Tesserre, qui avait oublié de mettre les affiches qui disaient on va vider les caves, enlever vos affaires. Ils ont oublié de le faire.
Ils n'ont pas prévenu les habitants.
Ils n'ont pas prévenu les habitants.
C'est quand même grave.
Donc, beaucoup d'affaires personnelles ont été mises à la déchetterie. Et quand les gens de la tour concernée descendaient à l'agence, ils venaient dire ben, où sont nos affaires, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On ne voulait pas leur répondre, les recevoir. Et du coup, les gens se sont dit bon, ben, il y a l'Alliance citoyenne qui est là, on rentre dans l'Alliance citoyenne. On s'est tous retrouvés en bas de la tour un jour. Et on avait emmené des grandes brouettes pour symboliser le vide des affaires qui avaient disparu. Et on est allés tous ensemble à l'agence.
Poser la question.
Que sont devenues nos affaires et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça, quoi. Et là, comme il y avait aussi quelques journalistes avec nous, on était tous ensemble, soudés, bien préparés, le responsable a été obligé de dire non, nous allons faire un geste commercial pour répondre à ces habitants. Et à partir de ce moment-là, il y a toute
une négociation
qui s'est mise en marche. Et là, tout le monde a été remboursé de 350 à 500 euros pour les affaires qui ont été perdues. Donc voilà, c'est quelque chose de très très concret, pratique, etc. Mais les gens se sont dit, bon ben voilà, nos affaires ont disparu, mais il y a une reconnaissance quand même d'un droit ou d'un... des gens qui ont été lésés, où le tort a été reconnu, quoi. Et les gens, depuis, sont allés aussi voir d'autres habitants pour leur dire, écoutez, si vous, organisons-nous, serrons-nous les coudes, il ne faut pas qu'on reste seul chacun avec les problèmes, il faut aussi qu'on essaie de voir comment on peut faire concrètement changer les choses, quoi, pour se faire reconnaître en tant que locataire, en tant qu'habitant, etc.
Et il y a toujours des journalistes qui viennent ? La presse est avertie ?
La presse est un moyen, oui, effectivement. C'est pas toujours. Ils sont pas forcément là, mais on essaye en tout cas de publier au maximum,
oui,
justement les choses qui sont faites, quoi.
Il y avait quelqu'un pour le Dauphiné libéré à la à l'action auprès de la SDH à Chirol. Voilà.
Sur le terrain, comment vous organisez en fait les gens? Comment vous les prévenez, par exemple, que telle action va avoir lieu? Comment vous les mobilisez?
Les actions sont décidées en général par les gens. Enfin, pas en général, sont décidées.
La priorité.
Ouais, sont décidées par les gens. Moi, l'idée, c'est que je vais mobiliser beaucoup. Enfin, tous les organisateurs, là, on fait beaucoup de porte à porte pour aller rencontrer aussi les personnes qu'on rencontrera pas dans la rue, qui restent plus chez eux ou qui, aux horaires où nous on pourrait travailler, ne seraient pas dehors. Donc, on va voir les gens chez eux. On leur parle de ce qu'on fait. On leur propose de rentrer dans l'association et ensuite on se retrouve pour les réunions. On passe des coups de fil, on passe beaucoup coups de fil. Et puis on se retrouve au fur et à mesure. Ensuite, les membres eux-mêmes se mettent au travail pour aller chercher leurs voisins, pour aller chercher leur famille, pour aller passer des coups de fil à leur tour, etc.
Pour donner la liste des problèmes qui se posent,
pour faire passer les informations,
faire définir des priorités ensuite. Et
voilà.
Puis, il y a une organisation plus technique, on va dire. Puis un apprentissage qui se fait un petit peu aussi.
Voilà, c'est ça. C'est, on apprend
au fur et à mesure.
En faisant, ouais.
Et comment vous faites dans l'Alliance le choix des quartiers sur lesquels vous allez intervenir?
Et ben c'est souvent ça part. On avait rencontré il y a quelques mois des gens au village olympique qui nous avaient parlé de tous ces problèmes de parking. Et on s'était dit il faudra vraiment qu'on essaye de faire quelque chose, de s'organiser à grosse échelle sur le quartier pour essayer de résoudre des choses comme ça.
Les problèmes de parking, c'était ?
C'est le manque de place qu'il pouvait y avoir sur le parking, les voitures qui brûlent là. Juste derrière là.
Sur Aimé Pépin, oui,
voilà, c'est ça. Donc en fait c'est les gens qu'on rencontre qui nous sollicitent et du coup on se dit
on part de là.
Voilà, ensuite on va voir tous les acteurs du quartier au maximum pour leur présenter ce qu'on va faire et puis ensuite c'est parti.
Bon, on suivra les choses sur le village olympique, c'est tout comme question.
Non, moi j'en avais encore. Le droit.
Vas-y.
Oui, comment vous faites pour... parce que sur certaines luttes, il y a déjà des associations qui sont déjà mobilisées, je pense, sur la question.
Ouais.
Comment, si les habitants vous interpellent sur la question, comment vous vous organisez avec les autres associations?
Ensuite, de toute façon, c'est toujours les gens qui vont choisir, qui décident en fait comment ils veulent travailler. Si ça se pose, cette question, je pense que moi, j'irai voir directement l'association qui le fait. On en discute et voir les complémentarités. Souvent, nous, on a des méthodes justement d'action directe, visibles, très visibles, qui sont... et de grosses mobilisations, d'aller chercher les gens les plus reculés, pour faire tout ça, quoi. Donc ça, en général, moi je trouve qu'on peut toujours trouver une complémentarité en fait dans les actions. Ça peut donner plus de puissance à une action qui est déjà prise, et puis ensuite c'est les gens qui vont choisir telle ou telle lutte. Donc c'est pas forcément moi qui vais décider.
Ça peut faire de l'émulation.
Ouais, voilà. En fait, moi, c'est vraiment ça que...
Peut-être.
Ouais. On est encore en train d'essayer plein de choses, hein. Et moi, je me dis que ça peut que faire grossir les luttes et faire se rencontrer plus de gens, quoi.
Tout est gagné. Là, vous agissez surtout sur des luttes locales, mm-hmm. sur des problématiques locales. Si les habitants vous interpellent sur des problèmes plus à l'échelle nationale, comment vous faites, en fait?
Eh bien, y a une alliance citoyenne qui est en train de se... Enfin, qui est montée à Rennes. Il y en a une autre à Paris qui est en train de se créer. Donc, en ce moment, il y a des organisateurs de Paris qui sont venus là pour se former un peu à tout ça. Et...
L'origine, c'était Grenoble?
Ouais, l'origine, c'était Grenoble. Et l'idée, c'est d'être assez fort et assez nombreux dans plein de villes différentes pour pouvoir monter ces revendications-là. En attendant, c'est pas tout de suite. Ça, pour le moment, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des organisations fortes localement. Et en attendant, c'est pas des choses sur lesquelles on pourra partir. Et on va pas dire à un groupe, ok, on va aller voir le ministre. On est 50, c'est super. Voilà.
Et si on souhaite vous rencontrer, où est-ce qu'on vous trouve du coup?
À Cap Béria. Donc c'est au 15 rue Aimé Jacquet, c'est près du tram Beria Magasin, dans la rue Ampère.
À côté de la salle de musique amplifiée.
C'est ça, la Belle Électrique.
Mais notre
local est moins joli.
Il y a un site internet, je suppose, pardon.
Oui, il y a un site internet, c'est alliancecitoyenne-38.fr.
Juste, je lance le sujet de la gentrification. Vous n'allez pas être déplacé Cap Béria? Il n'y avait pas une histoire comme ça?
Bon.
Ok. Bon, on sera pause musicale.
La deuxième pause musicale sera toujours avec les musiques libanaises de notre ami Elie, Joseph Attiyeh, qui parle du bonheur de revenir à la maison. On va dire ça comme ça. C'est tous les titres, toutes les histoires qu'il nous a données sont très poétiques, donc difficiles à traduire. En tout cas, c'est Joseph Attiyeh, libanais. We'll be right back. On est toujours dans l'émission Au ras des rues sur Radio Kaléidoscope et on vient d'écouter une musique de Joseph Attillé, musique libanaise. On continue l'émission avec un thème qu'on a baptisé la gentrification des quartiers populaires. Morgane, tu nous parles de la gentrification et de l'auteur d'un article.
Donc, c'est venu notamment du fait d'un hommage à une personne qui est donc morte vendredi soir au Bataclan, qui est donc originaire de l'Isère. C'est un géographe, jeune chercheur et conférencier qui s'appelle donc Mathieu Giroux. Et il a publié notamment un article scientifique qui s'appelle « Mixité, contrôle social et gentrification » qui a été publié le 3 novembre dans une revue qui s'appelle... Antoine, est-ce que tu peux m'aider ?
La vie des idées, je pense que...
Voilà. Et en fait, voilà, donc c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, notamment avec les histoires de rénovation urbaine.
On est en plein dedans.
Voilà, et c'est un sujet qui est revenu pas mal à travers mes études d'architecture, et je pense à toi aussi, Antoine, à travers...
Oui, bien sûr, puisque moi j'ai travaillé sur la rénovation urbaine, essayer de voir c'était quoi en fait le fil rouge depuis les rénovations urbaines de Haussmann, pour commencer, depuis la plus grande rénovation urbaine de l'histoire. Et puis jusqu'à...
À Paris, au 19e siècle.
C'est ça, sous Napoléon III. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça donnait un petit peu avant la guerre, l'après-guerre notamment, la reconstruction. Et puis jusqu'à aujourd'hui avec l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Donc forcément, la mixité sociale, la gentrification, ça fait partie en fait... du vocabulaire qu'on croise quand on s'intéresse à ça.
Alors, tu nous feras une petite définition de gentrification, juste pour finir la petite présentation sur Mathieu Giroux. Donc, il enseignait à l'Université Paris-Est de Marne-la-Vallée. Et tout ce que je peux dire, c'est que donc, dans cet article, et on va le décortiquer un peu ensemble, il rapproche donc cette notion, ce terme qu'on entend beaucoup dans les discours politiques, qui est la mixité sociale, et en fait, phénomène de gentrification, que du coup, si tu veux bien peut-être nous le définir.
Antoine ?
Oui, alors la gentrification, donc c'est un terme anglais, en français ça ressemblerait à embourgeoisement, notamment embourgeoisement des quartiers populaires.
Un changement de population.
C'est ça, un changement de population, donc un quartier populaire avec des loyers qui seraient assez modestes, qui permet à des populations de couches sociales plus modestes de pouvoir s'installer, de pouvoir y vivre en fait, et puis... au fur et à mesure, il y a...
Est modeste. Normalement, dans les quartiers populaires, par exemple, les commerces aussi sont assez peu chers.
Voilà, la vie, finalement, n'y est pas chère.
Et en France, les quartiers populaires sont souvent associés aux quartiers d'habitat social, voilà. Qui font référence d'ailleurs à une époque de construction qui est plutôt des années 50 à 90. Les années 80, c'est les derniers grands quartiers... qui ont été construits d'habitat social, qu'on appelle aujourd'hui communément les grands ensembles.
Voilà. Ou les cités HLM. Mm. Et donc, pour reprendre la gentrification, ouais, c'est un processus, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va y avoir une population un peu plus... pas forcément plus aisée, mais une population qui aura...
un capital culturel.
Un capital culturel, voilà.
Assez tout ça important. Avec des guillemets.
C'est ça, un capital culturel, ça veut dire des gens qui auraient fait des études, des gens qui seraient issus de familles, bonnes familles, ou qui ne seraient pas forcément riches, mais qui auraient en fait tout ce capital culturel issu d'une autre culture que celle de la culture du quartier populaire, donc ouvrière, immigrée. Et en fait, ils s'installent dans ces quartiers-là, avec un commerce ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, le quartier devient attractif, ce qui fait que forcément le loyer augmente. Et puis ensuite, il peut y avoir un commerce qui s'installe, qui est assez spécialisé.
Et ce commerce, il sera assez cher, puisque c'est très spécialisé. Et finalement, ça va être tellement cher que la population d'origine, donc la classe plus populaire, ne pourra pas se payer le service ou le produit qui est vendu par ce commerce. Ce qui fait que ça va commencer à exclure. Et puis au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de gens qui vont venir parce que le quartier il y fait bon vivre. Et au fur et à mesure, les loyers vont devenir tellement élevés qu'on aura évacué toute la classe populaire et le quartier sera devenu finalement un quartier plutôt riche, plutôt aisé, alors que historiquement, il a toujours été populaire et avec une vie qui était abordable.
Alors, juste sur l'histoire des augmentations de loyers, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des acteurs derrière, il y a des gens qui ça s'appelle la spéculation immobilière. Et en fait, au moment où par l'image, un quartier devient de plus en plus attractif, comme tu disais, au début, ça ne vient pas forcément de populations qui sont riches, notamment, en fait, les premiers gentrificateurs qu'on peut identifier dans cette étude-là, c'est par exemple les étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui ont un capital culturel, qui vont arriver même par des fois des squats, amorcer une vie en fait culturelle, du coup faire ouvrir des bars, etc., attirer. Et puis des fois aussi ces jeunes-là, font des enfants. Puis finalement s'installent, eux ils trouvent un boulot et et en fait ça derrière il y a des promoteurs immobiliers qui vont profiter de cet effet d'attraction par l'image pour vendre plus cher les terrains, vendre plus cher les logements, les immeubles, etc. Et d'ailleurs les promoteurs immobiliers peuvent profiter à un moment donné où les loyers sont peu chers. Et qui voit que, par exemple, le quartier est bien situé, parce qu'on parle des quartiers souvent en centre-ville, des quartiers populaires au centre des villes, qui du coup, ils sont bien situés pour recréer du logement pour les classes moyennes. Donc, il y a des promoteurs qui prévoient ces choses-là et qui rachètent et qui attendent un peu pour revendre plus cher après.
Parce qu'il faut s'imaginer que dans les quartiers populaires comme ça, il y a souvent, notamment dans les anciens centres, dans les vieux centres, en fait, il y a beaucoup d'habitations qui sont assez vieux, assez vétustes, des bâtiments qui méritent d'être rénovés. Et là, c'est l'occasion justement pour les spéculateurs de racheter les bâtiments, de rénover et ensuite de réserver ces nouveaux bâtiments à une classe plutôt aisée.
Parce qu'ici, on a des exemples à l'inverse où la rénovation, par exemple, du quartier de la rue Tricloître a été faite en relogeant les gens dans le même endroit.
Hein. Voilà, et ça, c'était...
C'était un contre-exemple dans les années 70.
Voilà, c'était sous Hubert Dubedoux, donc c'est de ce qu'on appelle de l'interventionnisme municipal, c'est-à-dire quand la municipalité...
elle garde la maîtrise, en fait.
Elle est volontaire et voulait que la rénovation des anciens centres ne soit pas un prétexte à expulser, en fait...
Et bénéficier à ceux qui vivaient là, quoi.
Voilà. Mais ça a quand même été un peu contrecarré quand Hubert Dubedoux s'est fait battre aux élections par Carignan.
Où là, il y a eu de la spéculation.
Où là, c'était place au néolibéralisme, en fait, qui commençait. Enfin, qui commençait. Oui, le néolibéralisme commençait à l'époque. Et en fait, beaucoup de populations qui étaient issues donc des vieux centres se sont retrouvées, notamment dans les quartiers sud, Village Olympique, Arlequin, puisque là, le loyer était abordable, alors qu'il n'était plus dans les centres. Mmh. Donc, maintenant, je peux vous lire la première phrase de l'article.
Donc, l'article de Mathieu Giroux.
C'est ça.
Qui dit... Géographe.
L'article s'appelle « Mixité, contrôle social et gentrification ». Alors, il commence comme ça. « La gentrification est souvent favorisée par des politiques publiques au nom, entre autres, de la mixité sociale. Dans la recherche urbaine, toutefois, ce type de discours fait l'objet de vives critiques. » Donc, en fait, il se base sur un autre universitaire qui s'appelle Tom Slater, qui dit qu'en fait, que le discours de mixité sociale, il permet de légitimer donc l'action, c'est-à-dire la rénovation de cette gentrification. Et il dit notamment que ça met un petit peu du beurre dans les épinards et ça évite qu'il y ait une critique. Et lui, dans son article, il dit que c'est pas si vrai que ça, parce que notamment dans les universitaires français, il y a pas mal de critiques de la gentrification et de ce processus-là. Donc je rappelle que la loi du marché, qui fait entre l'offre et la demande, plus il y a d'offres, moins c'est cher, mais plus il y a de demandes, plus les prix augmentent, puisque ce qui est rare est cher. Mmh. Ce qui explique pourquoi un quartier qui est de plus en plus prisé devient de plus en plus cher et qu'on y trouve de moins en moins de pauvres.
Quand il dit
Morgane, oui.
Quand il dit que oui, dans sa phrase d'introduction, enfin après dans le début de son article, ce qu'il identifie, c'est que le discours politique, puisque tu parlais de mettre du beurre dans les épinards, juste pour illustrer plus précisément, en fait, il y a un flou qui se pose sur deux discours politiques qui sont assez opposés. Il y a un qui est l'amélioration de la situation des classes populaires habitant dans les quartiers. Donc ça, c'est l'argument vis-à-vis des habitants. On va améliorer vos conditions de vie. Et de l'autre côté, il y a la valorisation des quartiers, donc en tant qu'immobilier ou foncier, pour attirer des nouveaux habitants et des nouvelles activités. Et ça, c'est pas forcément dans l'intérêt des habitants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas forcément dans l'intérêt des habitants des quartiers à ce moment-là.
Et c'est pour ça qu'il écrit « S'intéresser à la mixité sociale dans les quartiers en gentrification consiste donc à poser la question du statut et de la place des classes populaires au cœur même des grandes métropoles. » Donc c'est-à-dire quelle place on donne finalement aux classes populaires. Est-ce qu'on réserve le centre aux classes plus aisées ou alors est-ce qu'on leur accorde... Est-ce qu'on va un petit peu contre la loi du marché et qu'on fait de l'interventionnisme, comme on parlait tout à l'heure avec ce qui a été fait...
L'intervention tout court, oui. Oui,
l'intervention tout court, pour contrecarrer cette loi du marché.
Et surtout, est-ce qu'on fait de la mixité sociale dans les quartiers riches ? Alors, après, dans l'article, ce que nous explique Mathieu Giroux, c'est qu'une des violences, parce que la mixité sociale, en fait, c'est un concept... Mais dans la réalité, voilà, il explique tout au long de son article que dans la vie quotidienne des gens, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment effectif. C'est-à-dire que, en fait, les personnes n'ont pas les mêmes modes de vie. La confrontation, la cohabitation, c'est pas tous les jours facile. Par exemple, il y a plein d'événements dans l'espace public pour valoriser la mixité d'un quartier, etc. Mais par contre, par exemple, à l'école, eh ben, c'est hyper difficile de gérer la cohabitation. Et il y a beaucoup de gens qui, par exemple, habitent dans un quartier et ne mettent pas leurs enfants
à l'école. Mettent leurs enfants dans un autre endroit.
Donc, voilà. Et ce qu'il disait, bah, je rigole un peu en disant est-ce qu'on fait de la mixité sociale dans les quartiers riches, c'est qu'il dit qu'une des plus grandes violences, c'est la confrontation entre les ménages les plus modestes et des personnes plus aisées qui habiteraient, qui seraient leurs voisins. Mmh. Et ce que ça peut générer comme frustration, comme violence symbolique, comme le fait de plus se sentir chez soi, de sentir dépossédé de son propre quartier où on a grandi, où on a vécu pendant des années, etc.
Mmh. On a beaucoup d'exemples sur Paris qui sont cités quelquefois dans ce domaine-là. On propose une pause musicale, une troisième pause musicale avec toujours une musique libanaise proposée par notre amie Ellie. Donc ce sera de Melhem Zayn, je pense qu'on dit Melhem Zayn. Je crois que c'est un militaire qui parle d'un rêve brisé, qui parle d'un entourage difficile. Il donne toutes ses forces pour que son pays soit... en meilleur état, il défend son pays. Le rêve est brisé, mais il est toujours là. Donc, Melhem Zayn.
Mmh. كل ما تمسك غرض بإيدك كل ما تطلع بعيني كل ما تمشي توقف فكر بالناس اللي بطلوا هي
بالناس اللي بطلوا هي
شخص عيونه ما بيبتسم بالأخبار سمعنا تسمع يضحى بقطع من جسمه من خوف علي وعلي
من خوف علي وعلي
أحلى جرح بيشبه وطن من الحرب من الألغام قاوم وجند ومدني
عروق بتنزف أحلى جرح بيشبه وطن من الحرب من الألغام قاوم وجند ومدني
حلم جريح بيتحقق بإيدي شارك فيها قلوب الناس لما بتسعد قلب الجرحى رح يكبر هيدا الاحساس
رح يكبر هيدا الاحساس
هيك خلقنا وهيك ربينا طيبتنا اجمل ما فينا وحدتنا عالكون قوينا وشمخنا وعلينا الراس
Voilà, donc après cette nouvelle musique libanaise de Mehem Zeyn, on revient à notre sujet. Donc c'était, on est toujours au ras des rues dans l'émission Au ras des rues de, sur Radio Kaléidoscope. Et on parlait de la gentrification des quartiers populaires. C'était un hommage rendu à Mathieu Giroux, qui était géographe et enseignant dans la région parisienne et qui a été tué dans le massacre du Bataclan de vendredi dernier. Donc, encore un point ou deux à aborder à ce propos-là.
Oui, bah alors on va. J'avais quelques
Morgane.
Réflexions. Par rapport justement entre, par rapport à, au sujet qui nous intéresse, qui sont les quartiers sud de Grenoble, et
voilà,
notamment
plus concrètement.
La Villeneuve. Moi, je vais parler de quelques sujets sur la rénovation urbaine. L'article de Mathieu Giroux sur le parallèle entre le discours sur la mixité sociale et la gentrification. À la Villeneuve, c'est assez intéressant parce que c'est un quartier qui a été construit sur le principe de mixité sociale, contrairement à beaucoup d'autres quartiers d'habitat social où c'était pas une problématique qui avait été prise en place. Et il y a beaucoup de gens qui sont, beaucoup de personnes qui habitent depuis le début, les personnes qui viennent aux réunions. De mobilisation, etc., qui sont souvent là, sont assez nostalgiques de cette époque et disent qu'il y a moins de mixité sociale. Alors, moi, juste ce que je voulais soulever, c'est... Mathieu Giroux, il pose la question, mais en fait, on parle de mixité sociale pour justifier une redistribution de la population sur un territoire. Et il dit, mais que fait-on de la redistribution des richesses ? Parce que la redistribution de la population ne contrecarre pas du tout les inégalités sociales qui sont grandissantes. Et d'ailleurs, aux nostalgiques, peut-être cette question de, est-ce qu'on n'a pas changé d'air économique on sait que les inégalités sociales sont criantes et augmentent chaque jour. Et à la Villeneuve, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on vend les logements sociaux. pour diminuer cette part peut-être de personnes de ménages plus modestes sur le territoire. Oui. Comme le 10-20 de l'Arlequin qui va être en accession à la propriété et donc qui va se privatiser. Il y a cette question-là.
C'est un peu l'objectif, oui.
Voilà, il y a la démolition du 50, enfin de 60 logements.
Non, mais l'accession à la propriété, c'est bien des habitants des HLM qui achètent leur propre logement.
Mais c'est certains habitants qui sont éligibles à l'accession à la propriété. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même dans le logement social un classement entre les différentes catégories, parce que 70% de la population française est éligible au logement social aujourd'hui.
Je voulais juste ajouter que le cœur du projet, c'était de la rénovation, c'était de passer de 50-50, donc le
ras des rues.
L'émission, qui espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah. Hey, you do it. Yeah. Yeah. Yeah.